Eh bien donc, bonsoir tout le monde. Je vais essayer de vous parler de ce qui m'occupe et m'intéresse dans ma profession. Je ne sais pas du tout si ça va avoir un lien avec ce qui vous occupe et ce qui vous intéresse. On va voir. J'ai plutôt pensé mon intervention comme un témoignage, disons, assez bref. Donc, je suis metteur en scène de théâtre d'une part et pédagogue de l'autre à l'école supérieure d'acteurs du Conservatoire de Liège. Donc, je travaille avec des acteurs confirmés et aussi avec des apprentis acteurs qui se destinent à cette profession. Bien, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je dois définir deux, trois petites choses. Tout d'abord, je dois préciser que mon approche n'est pas du tout scientifique, du tout, du tout. Je pense qu'elle se situe plutôt du côté de l'intuition, de l'observation et du bricolage, et pas du tout du surf non plus. Ou alors, si on préfère un terme un peu plus noble, j'ai la sensation d'être un artisan, disons. Je me situe plutôt du côté de l'artisanat. Ensuite, je voudrais quand même un tout petit peu délimiter le terme théâtre pour essayer de me faire comprendre au mieux. Tout à l'heure, Madame Champagne parlait de l'acteur qui, avant tout, se confronte à un texte. Bien, je pense que, puisqu'on parle beaucoup de diversité, je pense qu'il y a beaucoup d'approches différentes. Mon approche n'est pas du tout celle-là. Je la respecte, même si j'utilise le texte. Mon approche est autre. Elle se situe plutôt à partir du corps, dans le corps. Donc voilà, on peut facilement se représenter une répétition de théâtre. C'est un groupe de personnes qui ont choisi d'illustrer, d'incarner un texte dans la littérature dramatique et qui, à partir des mots de l'auteur, essaye de donner vie à cette œuvre. Et donc moi, en ce qui me concerne, c'est complètement différent. D'autant plus que j'ai remarqué que l'objet final, c'est-à-dire le spectacle, m'intéresse de moins en moins, vraiment de moins en moins, et que le processus, le chemin pour y arriver, m'intéresse de plus en plus. Même si, pour que ce processus ait lieu et qu'il soit fort, l'objet, le spectacle, doit être pensé, bien fait. Mais bon, rien à faire. Pour moi, les répétitions sont plus passionnantes que les représentations. Donc, quand je parle d'acteurs et de théâtre, je me réfère beaucoup plus, disons, à des potentialités qui ont leur occurrence dans les répétitions, qu'à l'objet final, qu'au spectacle. Dans mon travail, je préfère toujours partir du corps, du mien d'abord, que je mets toujours en jeu, parmi les acteurs, parmi le corps des acteurs. Si par exemple j'analyse un texte avec les acteurs, je le fais en engageant les corps dans l'espace. Si je cherche une solution, ce n'est pas la tête qui cherche, c'est le corps qui cherche, par l'action. Ensuite, qu'est-ce que j'entends par corps? Est-ce que c'est voilà, cet ensemble de os, chair, muscles, organes, nerfs? Eh bien non, ce n'est pas ça. Ou plutôt, ce n'est pas seulement ça. Disons que je m'approche du corps comme un ensemble plein de mystères, et qui n'est pas donc seulement cette machine matérielle. Et dans cet ensemble plein de mystères, il me semble que cohabitent la mémoire est dans le corps, il me semble, pour moi, dans ma conception, dans ma perception, les émotions sont dans le corps, dedans le corps, l'imaginaire est dedans le corps, le mental, l'esprit, etc. Et deux autres choses fondamentales dans mon travail aussi, c'est le besoin et le désir. Donc, quand je regarde un corps d'un acteur en travail, mais bon voilà, il y a des déviations professionnelles. Donc, quand je regarde tous les corps, je m'efforce toujours de percevoir comme une espèce de profondeur de champ où se croise l'histoire personnelle, l'histoire collective et, disons, des motivations plutôt inconscientes. Donc, je regarde le corps et j'écoute la voix de l'acteur comme le dernier maillon d'une très 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 longue chaîne de phénomènes, comme l'endroit où un processus invisible a lieu avant de donner forme à du visible, avant de se matérialiser en signes qui sont plus ou moins lisibles pour un témoin extérieur, comme on dit pour un spectateur. Alors, qu'est-ce que j'attends de ce corps? Eh bien, avant tout, qu'il soit habité par ces deux phénomènes, visibles et invisibles, en même temps. Je regarde ce corps pour voir si c'est bien cette espèce de mouvement souterrain qui donne naissance aux formes visibles. Et j'attends également, ça c'est le plus important, que ce corps soit vivant. Alors voilà encore un mot que je dois définir. Vivant pour moi, dans mon travail, mais peut-être aussi dans la vie, signifie que ce double processus invisible et visible soit présent, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais surtout que ce corps, habité par ces deux processus, soit complètement sensible à l'environnement, et plus particulièrement à l'autre, aux partenaires, aux autres corps, aux autres vies. Le corps de l'acteur vivant, c'est un corps qui s'adapte. C'est un corps capable de quitter la route préétablie pour s'harmoniser à des facteurs imprévisibles, complètement imprévisibles. C'est un corps capable de répondre de manière appropriée, et c'est un corps qu'on prépare pour ça, de manière appropriée à de l'inattendu. Disons que c'est le corps réactif, c'est le corps qui voit, le corps qui entend, le corps qui perçoit et qui répond de manière spontanée par un acte à de l'inattendu. Quand ce corps écoute, il entend, et quand ce corps regarde, il voit. Et quand ce corps bouge, il agit. Je m'explique. Chaque acteur prépare, avec l'aide du metteur en scène, une partition. Donc, il fixe un certain nombre de choses. Et cette partition est structurée logiquement. Et chose très très importante, elle est parfaitement répétable, puisque l'acteur doit la jouer tous les soirs, tous les jours, dans le meilleur des cas. Mais l'acteur doit pouvoir aussi l'adapter chaque jour différemment. Tout simplement parce que chaque jour, on est légèrement différent. Ça, il n'y a pas de différence entre l'acteur et monsieur et madame tout le monde. Les conditions l'environnement changent tous les jours, un peu. Vous croisez votre voisin de palier, vous croisez votre voisine de palier, tous les jours vous lui dites bonjour, mais votre bonjour n'est jamais deux fois le même. N'est jamais deux fois le même. Parce qu'un jour vous êtes enrhumé, parce que l'autre jour vous percevez chez votre voisine une espèce d'irritation, etc., etc. Donc en fait, l'acteur ne peut jamais agir seul, vraiment jamais. Son corps est profondément engagé dans quelque chose d'éminemment collectif. Le théâtre est un acte éminemment collectif. Son essence est profondément interhumaine. L'interdépendance des corps est très très haute sur un plateau de théâtre, en tout cas comme moi je l'entends. Et d'ailleurs, même quand un acteur fait un seul en scène, il est interdépendant de son partenaire. Ça peut être des partenaires imaginaires, mais ça peut être aussi le public. La qualité d'écoute du public, la qualité de l'énergie dégagée par le public, tout ça devient un partenaire. Les mouvements, les petits bruits, tout ça devient un partenaire auquel l'acteur doit absolument s'adapter pour être vivant, pour être là. Alors, cette capacité est extrêmement liée pour moi au corps, cette capacité d'adaptation. C'est-à-dire que le corps de l'acteur doit devenir ou redevenir extrêmement alerte, doit cristalliser une espèce d'état de vigilance permanente. Alors c'est autour de ces quelques petites notions que je voudrais me promener, parce que ce sont ces notions-là qui me passionnent et qui m'intéressent avant toute chose. Elle m'intéresse avant même le choix d'une œuvre, elle m'intéresse avant même la créativité, avant même la découverte de l'inconnu, de l'inouï, comme Madame Champagne disait tout à l'heure, en tout cas avant la production d'un produit et sa consommation par un public, excusez ces mots un peu triviaux, c'est comme ça que je le vis. Alors, il y a une sorte de préparation, une sorte d'éducation, je serais tenté de dire de rééducation du corps, de l'organisme tout entier, à cette, appelons ça, responsabilité à laquelle l'acteur doit continuellement faire face, être vivant parmi et devant les autres. Alors, cela s'apprend parfois dans certaines écoles d'art, ça s'apprend aussi parfois auprès de certains metteurs en scène qui se passionnent pour ça. Alors, dans ce cas-là, c'est plutôt des directeurs d'acteurs que des metteurs en scène. Et ça s'apprend aussi dans la vie de tous les jours des acteurs, quand ils ont la chance de travailler tous les jours. Ou régulièrement, en tout cas. Donc, au fil du temps et des expériences que le corps de ce type d'acteur a appris, ce que le corps de ce type d'acteur a appris va devenir une espèce d'outil de perception et même d'analyse de soi et des relations à l'environnement. Il y a quelque chose dans ce corps-là qui, peu à peu, à condition qu'on suive le même fil, qu'on creuse le même tunnel, peu à peu, il y a quelque chose qui se cristallise et une transformation a lieu, une sorte de mûrissement de la présence, de la perception et des actes. Alors, voilà, on arrive là à un point essentiel pour moi, parce que dans ce sens-là, le théâtre n'est plus du tout, plus seulement un divertissement ou une représentation du monde ou de l'art. Il devient un véhicule, il devient un véhicule de transformation de soi pour ceux qui le font, et il devient une espèce d'invitation, je préférerais même le mot provocation, pour ceux qui regardent. C'est donc, voilà, à ce type de théâtre que je me réfère ici. Alors, pourquoi est-ce que je parle de rééduquer le corps? Pourquoi est-ce que je préfère dire que cela se réapprend? Je vais faire un petit détour. Chaque culture a une représentation du corps et chaque individu a une représentation du corps. Alors personnellement, je vois le corps de l'acteur comme les poupées russes, vous voyez, qui s'emboîtent. Pour moi, on a plusieurs corps. Donc je rappelle bien que je parle ici vraiment sans prétention scientifique et sans prétention à l'objectivité. Dans mon travail, je parle souvent, par exemple, de corps enfant ou de corps instinct, de corps animal, de corps besoin, de corps désir, de corps canal, de corps vide ou de corps mémoire. Et on pourrait encore en inventer beaucoup. Dans ma représentation du corps, tous ces corps sont assez distincts mais reliés entre eux. Et j'utilise ces termes parce que j'ai remarqué qu'ils sont mystérieux et stimulants. Alors je m'approche de l'acteur et je lui parle, ou bien je manipule des situations de travail, manipulées dans le bon sens du terme, dans le but de libérer tel ou tel corps. C'est assez contraignant pour l'acteur parce qu'il ne comprend pas ce que j'entends par corps, enfant par exemple. Alors ça devient comme un défi pour lui. Alors il tente de relever ce défi, il tente de laisser apparaître son corps enfant. Et laisser apparaître son corps enfant, ça ne veut vraiment pas dire jouer à l'enfant. C'est pas ça. En cherchant ce corps enfant, il met en route un mécanisme d'écoute d'une espèce de profondeur de champ de lui-même. Il ne cherche pas avec sa tête, il cherche avec des actions. On ne discute pas autour de ces notions-là, on essaye de découvrir en faisant, avec des actes. Et dans toutes ces représentations du corps, j'ai mes petites préférences. Et ma préférence, c'est plutôt de parler de corps canal ou de corps vide. J'ai observé que le corps de l'acteur doit être vide. Ou non plein. Par exemple, dans mon travail pédagogique avec les apprentis acteurs, je les entraîne, je les stimule, je les invite, je les engage, je crée des cadres pour qu'ils découvrent ça par eux-mêmes. je les incite à reconstruire un autre corps, d'une certaine manière. Tout cela est entre guillemets. J'essaie avec eux d'identifier en fait toutes sortes de portes plutôt fermées, des conduites bouchées, des engrenages rouillés, qui évidemment ne permettent pas aux impulsions vivantes de circuler. Corps canal, corps vide. Et ces obstacles sont bien sûr d'ordre physique et bien sûr d'ordre psychologique. Le corps de l'acteur, pour moi, doit être vide parce qu'il doit se remplir de toutes sortes de choses, et puis il doit se vider, et puis il doit se remplir, et puis il doit se vider, et puis il doit se remplir, etc., etc., etc. Le corps de l'acteur, donc, est un corps capable d'accueillir avec plus ou moins de précision et de laisser cet accueil modifier quelque chose en lui. Alors, le corps vide, une fois qu'il a accueilli quelque chose, il cède la place, dans mon vocabulaire, au corps canal, qui prend le relais. Le corps canal, c'est simplement une aptitude à canaliser, à articuler, à laisser passer le processus, à le diriger gentiment, le laisser se modifier. Disons que ça, c'est plutôt l'aspect passif du travail qu'il faut découvrir ou redécouvrir. Mais il y a aussi un autre aspect, celui du corps décidé, du corps qui agit clairement, qui se fraye un passage avec audace et sensibilité, les deux à la fois. Ça, c'est plutôt dans mon vocabulaire le corps animal qui est stimulé. En amont, tout ça, en avant, tout ça. Pour déclencher le processus, avant tout ça, c'est plutôt le corps instinct qui cherche. Donc, par exemple, quand on lit un texte, on le lit avec le corps instinct. Quand on l'analyse, pardon, quand on l'analyse. En réalité, tous ces corps agissent ensemble parce que vous devez être réceptif dans l'action et actif dans l'ouverture. Alors, pourquoi ce terme « redécouvrir » et quels sont les obstacles à dépasser pour laisser apparaître ces corps? Il y en a beaucoup. Ça varie énormément d'un individu à l'autre, même si on peut observer des constantes. Alors, je vais donner juste quelques petits exemples. Bon, pour me faire comprendre. Si on n'emmerde pas trop des enfants en bas âge avec des injonctions et des contraintes quand ils jouent ensemble, si on n'a pas encore trop planté en eux profondément cette instance qui dit « oui, tu peux jouer, mais ne te salis pas », par exemple, ou d'autres, s'il n'y a pas ça, alors on peut voir vraiment, vraiment dans les enfants, dans le corps des enfants, la vie qui passe. On pourrait dire que c'est la vie qui les porte. La vie les traverse. Ils ne font pas, ils sont faits. Ils sont agis par la vie. C'est comme ça que je le vois. Leur corps n'est pas encore rempli. Leur corps vide permet, leur corps canal permet que cette vie passe. Et dans mon expérience quotidienne de pédagogue, je vois de plus en plus clairement les nœuds et les obstacles que les corps des jeunes gens, de 18 à 23 ans plus ou moins, ont intégrés par l'éducation, par le contrôle social et par le fait que nous vivons dans cette civilisation-ci. Ça peut paraître des banalités, mais ces banalités sont profondément à l'œuvre et terriblement actives, négativement efficaces. Par exemple, il y a cette fameuse image du corps qu'il est bon d'avoir, une espèce de modèle canonique qui est produit essentiellement, disons, par la consommation, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, par des modes et par des tendances. Eh bien, cette espèce d'image du corps que nous subissons tous produit des énormes difficultés au niveau de la spontanéité, par exemple, la spontanéité du mouvement, du comportement plutôt, et la spontanéité de l'être ensemble. Et ça peut même aller jusqu'à des perturbations respiratoires graves et des troubles vocaux. Tout se passe comme si cette image canonique du corps produisait un contrôle permanent sur l'organicité, l'aspect naturel. Par exemple, un bête exemple, on ne veut pas montrer ses rondeurs, ni les garçons, ni les filles. On ne veut pas montrer ses rondeurs. Et alors, conséquence, ben, on crispe l'abdomen, on rentre le ventre. Et bien, ce qui se passe, c'est que les diaphragmes se bloquent. La cage thoracique est complètement engagée, perpétuellement dans un contrôle qui empêche la respiration complètement libre, comme les enfants, comme les animaux. Ça produit une voix faible, coincée, fragile, une série de difficultés se mettent en place, des difficultés nerveuses et psychologiques, j'en passe et des meilleures. Mais il y a beaucoup de degrés différents d'identification à ces images, bien sûr. Autre type de problème. Il y a quelques jours, j'étais face à une étudiante plutôt agitée, nerveuse, assez peu capable de suivre des consignes simples et claires, mais avec un potentiel vocal évident, une voix très grave. On discute un peu et j'apprends que sa famille et ses instituteurs ont corrigé avec insistance, quand elle était toute petite, sa voix grave. Une petite fille n'a pas une voix grave. Mais cette petite fille adorait chanter. Alors pendant qu'elle se faisait corriger, surtout par les frères et le père, elle s'enfuyait et elle allait chanter pleinement dans l'église du village, pleinement, avec sa voix à elle. Résultat, des années après, aujourd'hui, elle ne sait plus du tout quelle est sa voix. Et ce phénomène, elle ne sait plus du tout quelle est sa voix, se répercute directement dans son comportement. Elle est troublée, complètement troublée, et elle n'est pas capable d'accepter une consigne, par exemple. Là 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 là, 5 minutes, ça va être dur. Oh là là. Bon. Bon, il y a beaucoup d'exemples comme ça, je vais passer. Qu'est-ce qui m'intéresse le plus là-dedans? Oui. Mais je vais quelque part. Je vais quelque part. Voilà, en regardant mes étudiants, je me pose beaucoup de questions, quoi. Je regarde leur colonne vertébrale, par exemple. Ça fait à peu près 15 ans que j'enseigne. Je regarde la colonne vertébrale des étudiants et c'est une catastrophe. Soit elles sont, j'exagère bien sûr, molles comme des spaghettis, soit elles sont dures comme des balais. Des manches à balais. Et vraiment, vraiment, j'ai la sensation que cette situation est plus alarmante aujourd'hui qu'à 15 ans. Quelque chose a changé. Alors je me demande, je me pose juste des questions. Je me demande, et j'ai pas de réponse parce que j'ai pas investigué, mais je vais investiguer. Je me demande combien de temps ils ont joué dans leur jardin, dans la rue, dans les bois. Je me demande combien de temps ils ont passé dans une salle de classe, combien de temps ils sont restés assis dans les transports en commun, en voiture, devant la télévision, devant leurs écrans de toutes sortes, combien de temps ils ont passé à se jeter sur le corps des camarades, ou dans l'herbe, ou dans les feuilles, sous la pluie, au soleil. Et je me demande sérieusement si leurs corps ont joué et combien de temps. C'est une intervention un peu provocante, hein, bien sûr. Un autre obstacle que j'ai remarqué et qui est difficile à dépasser, c'est le bavardage du mental. Je n'ai rien contre le mental, évidemment, il est indispensable à la vie ensemble, même individuelle, mais je trouve qu'il a, malheureusement, il a une tendance à prendre beaucoup trop de place. Il adore tout commenter. Il a un avis sur tout, et si on y regarde d'un peu près, on est continuellement en train de se parler à soi-même. Le repos du mental, c'est rare. Le silence intérieur est vraiment très rare. Chez l'acteur, ça peut produire des désastres. Si un acteur, pendant qu'il fait, se commente, il se divise en deux. Il y a une partie qui pilote et l'autre qui agit. Donc, un acteur devient la marionnette et le marionnettiste. Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Fais ça. Non, c'est pas bien. Plus vite. Je suis bien là maintenant. Ouh là là, j'ai raté cet effet. Maintenant, arrête. Attention, tu vas bientôt te lever de ta chaise, etc. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'il ne peut pas être pleinement présent et pleinement ouvert. Il ne peut pas. Il se regarde, il se juge, il commente. Toute l'attention, toute son énergie est absorbée. Une partie de cette énergie est absorbée par cette espèce de discours avec soi-même, cette forme de narcissisme, cet intérêt pour soi-même. Et la vie ne passe pas, elle ne circule pas pleinement vers l'autre. Elle est parasitée, troublée par des commentaires. Je vais essayer de me faire mieux comprendre. Imaginons une situation de grande intimité avec un autre. On fait l'amour, par exemple. Et le mental se met à faire des commentaires. Je suppose que ça n'arrive à personne. Oui, ça va, c'est bien. Ok, passons aux genoux maintenant. Non, c'est pas le moment, etc. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Parce que où est le don de soi dans ce cas-là? Où est le don de soi? Par quoi la présence est-elle occupée à ce moment-là? Alors, je ne juge pas du tout ce phénomène. J'en suis même moi-même victime. Je regrette juste que personne ne se soucie sérieusement de ce genre de choses, que personne ne nous apprend le plus tôt possible à tenir ce mental à sa place. Autre petit exemple de travail. Imaginons deux acteurs qui doivent jouer Roméo et Juliette. Ils répètent, ça va, c'est des acteurs compétents, ça fonctionne. Mais en fait, c'est plutôt ennuyeux. Il n'y a rien de spécial. Il ne se passe rien de particulier, aucune révélation, aucun mystère. Alors, on peut dire à un des deux, Roméo vient ici. Écoute, ça va, mais ta Juliette, là, elle n'est pas en forme. Toi, ça va, mais Juliette, elle n'est pas en forme. Alors, on va faire la chose suivante. On va reprendre la scène. Mais toi, Roméo, tu vas faire tout pour aider Juliette. Tu vas t'engager complètement pour la soutenir, pour qu'elle soit au top. Et alors, on rejoue la scène, on rejoue la scène, et en fait, la plupart du temps, on peut être sûr que c'est Roméo qui va gagner en qualité, et pas Juliette. Tout simplement parce qu'il n'a plus pensé à lui-même. Il s'est donné à l'autre. Et finalement, c'est ça le jeu de l'acteur, c'est donner à l'autre et recevoir. Donner et recevoir. Et ça pourrait se résumer là. Ça pourrait s'arrêter là. Alors, Alors, donc, je disais tout à l'heure que j'ai fini par comprendre que les représentations théâtrales m'intéressaient beaucoup moins que les répétitions. La salle de répétition est devenue pour moi beaucoup plus qu'un endroit où on fabrique un spectacle. Les répétitions sont devenues en fait un lieu de résistance pour moi. Un lieu de résistance modeste, mais un lieu de résistance quand même. Un endroit où je peux, avec mes collaborateurs, ne pas subir, ne pas me laisser dévorer par le monde. Et ce travail de résistance devient peu à peu ma réponse à cette vie insatisfaisante à plus d'un égard. Voilà tout ce que je peux faire avec mon métier. Parce que dans cette salle de répétition, la chance est donnée à chacun de s'analyser et de mûrir, de grandir. Je veux dire par là que les répétitions, si elles sont menées d'une certaine manière, peuvent vraiment devenir un lieu de régénérescence, un lieu de renouvellement, de croissance, que ce soit au niveau technique, créatif et aussi au niveau de l'être, de l'essentiel. Et les corps sont devenus aussi, peu à peu, des lieux de résistance et de combat. Dehors de la salle de répétition, il y a de la vitesse et de l'agitation, de la rentabilité, du vacarme. Dans la salle de répétition, il y a du temps, du silence, de l'intériorité. Dehors, il y a du pouvoir, du rapport de force. Dedans, il y a de l'écoute, du développement mutuel, de la collectivisation du savoir. Dehors, il y a de l'inquiétude, du jugement permanent, de la critique. Dedans, il y a de la confiance totale. Un acteur devrait pouvoir tout tenter devant ses collègues, tout. Mais pour qu'il puisse tout tenter, il doit absolument avoir confiance. Un climat d'énorme confiance doit avoir lieu. Il doit être sûr qu'il ne sera pas jugé, parce qu'il doit pouvoir se tromper. D'ailleurs, tout apprentissage devrait passer par là. La possibilité de se tromper. Je dis toujours à mes étudiants qu'il n'y a aucune espèce d'erreur, jamais. Trompe-toi. Alors, ce n'est vraiment pas difficile à obtenir, parce que, évidemment, le monde du théâtre, il est bien dans ce monde-ci. Et il en subit toutes ses influences. Manque de moyens, donc manque de temps, un climat de compétition, un individualisme tenace, une sensation de ne pas exister, une obligation au résultat, à l'efficacité, la course au succès, plaire à tout prix, etc., etc., etc. Alors les acteurs deviennent aussi des corps machines, des corps outils, des corps images, des corps efficaces, ivres de produire. Et à cela, c'est mon point de vue, hein. À ça, moi je tente juste d'opposer, je me positionne, je réponds et je tente d'opposer à tout ça le corps animal, le corps enfant, le corps besoin, la dignité du corps, etc., etc. La mémoire du corps. Alors, voilà, j'arrive tout doucement à la fin et j'ai rien inventé de tout ça, rien du tout. J'ai juste essayé de reparcourir, disons, un chemin que des aînés m'ont laissé, pas qu'à moi. Et en essayant de reparcourir ce chemin, en essayant de recomprendre certains processus, eh bien maintenant, je crois que je peux tout doucement commencer à les transmettre à des plus jeunes. Que ce soit dans la salle de classe ou dans la salle de répétition. Alors, je voudrais terminer en vous montrant un tout petit extrait de la captation d'une pièce de théâtre mise en scène par Jerzy Grotowski au début des années 60. Il s'agit du Prince Constant de Calderón, c'est un texte du XVIIe siècle. où il est justement question de la résistance d'un prince prisonnier. Il est question de son inflexibilité face à ses bourreaux. Alors, la copie est très très vieille. C'est un document très abîmé, recomposé. Images et sons ont été recomposés. C'est en polonais. Il n'existe aucune traduction, nulle part. Et c'est une manière pour moi de citer mes sources, parce que j'ai eu la chance de travailler avec ce metteur en scène, il est mort aujourd'hui, et je lui dois beaucoup. Son travail continue à m'inspirer, et c'est aussi une manière de vous remercier pour votre écoute.